Fidèle jusqu'à la mort. Chapitre 3. La fin d'un beau rêve. Bien que Marjorie n'eût pas dormi la nuit précédente, elle fut longtemps avant de trouver le sommeil. L'excitation inaccoutumée des dernières heures, et surtout une préoccupation grave, la tint réveillée. Son livre. Comment le copier? À des moments perdus, et de préférence durant la nuit, sans doute. Et quels matériaux emploierait-elle? Impossible de demander du vélin à Sir Godefroy. Il s'informerait immédiatement de l'usage qu'elle voulait faire, puisque son bréviaire était presque terminé, et le vélin était un article précieux. Elle avait encore peu de papier que son père lui avait donné pour les esquisses de ses enluminures, et elle se décida à l'employer pour sa copie. Réfléchissant et combinant, la jeune fille s'endormit et rêva que son père lisait le livre à Lord Marnell, qui devenait soudain Richard Pinson. Elle se réveilla brusquement et sauta à bas de son lit en voyant qu'il faisait déjà jour. Elle s'habilla à la hâte, et descendit à la cuisine, mais n'y trouva que Joan, l'une des servantes, qui s'étirait en se frottant les yeux. « Et, quoi, demoiselle, vous êtes prête de bonne heure. Notre maîtresse n'est pas encore levée. Hier, au soir, elle a dit à Silett qu'elle ne paraîtrait pas avant 6 heures. » Marjorie vit, avec surprise, qu'il était à peine 6 heures, et, remontant dans sa chambre, elle résolut de mettre ce moment à profit pour commencer son œuvre. Elle travailla avec ardeur, et, au bout d'une heure, avait copié toute une page. Elle était si absorbée, qu'elle n'entendit pas la porte s'ouvrir, et tressaillit de frayeur en voyant soudain sa mère à ses côtés. « Déjà à l'ouvrage, ma fille, vous userez vos doigts jusqu'à l'os, mon enfant. Est-ce là votre livre de messe? Mais je le croyais écrit sur vélin, et ceci est du papier. Que faites-vous donc là? » Marjorie rougissait et pâlissait tour à tour. « Qu'avez-vous, ma fille ?» demanda Dame Lovell, tout étonnée. « Je vous demande grâce, ma mère, » dit Marjorie, rougissant plus que jamais. « Mais je ne vous avais pas entendu entrer, et votre voix m'a effrayée. Pauvre enfant, vous avez vraiment fait peur ?» dit Dame Lovell avec bonté. « Mais qu'est-ce ceci? Un autre bréviaire? Avez-vous besoin d'en avoir deux ?» Pauvre Marjorie. Terrifiée à la pensée que sa mère allait prévenir Sir Godefroy, dont l'œil exercé aurait vite reconnu la vraie nature du livre, elle répondit par un mensonge. « Oui, ma mère, » dit-elle, « c'est un bréviaire. » Durant toute la journée, Marjorie fut sur des épines, mais sa mère ne fit aucune allusion à l'incident, et elle put le croire oublié. Les jours passaient et Marjorie travaillait avec acharnement à sa copie. Elle la termina un jour, avant que le mois ne fût écoulé, et rendit le précieux manuscrit à Richard Pinson, en le priant de le remettre, sans tarder, à Sir Carew, avec tous ses remerciements. Le soir de ce jour-là, Dame Lovell était assise au coin de la vaste cheminée du hall. Près d'elle, Dame Catherine râpait des amandes. Un peu plus loin, Marjorie filait sa quenouille, tandis que Sir Godefroy et Richard Pinson, assis sur un banc devant le feu, causaient avec les dames. De l'autre côté de la cheminée, le père André sommeillait, suivant sa coutume. « Ma fille, avez-vous terminé votre bréviaire ?» demanda soudain Sir Godefroy. « S'il est fini, je serai curieux de le voir. » Le cœur de Marjorie cessa de battre, car sa superchérie allait être découverte. Elle se leva et répondit, « Je vais vous le chercher, mon père. » Madge est un scribe habile, remarqua alors Dame Lovell, à l'inexprimable effroi de Marjorie, car je sais qu'elle a écrit de bréviaire. Deux, s'écria Sir Godefroy en riant. Un pour les dimanches et jours de fête, et un pour la semaine. Apportez-nous l'un et l'autre. Marjorie revint bientôt avec les deux livres. Son père les prit et ouvrit d'abord le bréviaire, dont il loua fort l'écriture et les enluminures. Ces éloges auraient été pour elle une joie très vive si elle n'avait eu l'appréhension de ce qui allait suivre. Marjorie souhaitait ardemment que quelque chose intervînt pour retarder ce moment, si seulement sa mère pouvait détourner le cours de la conversation, ou l'une des servantes apporter des nouvelles inattendues. N'importe quoi, en somme. Mais, comme il arrive toujours en pareil cas, rien d'extraordinaire ne se produisit, et Sir Godefroy referma le bréviaire, et ouvrit le second volume, dans un calme absolu. Marjorie, tout en filant d'une main distraite, jetait des regards furtifs à son père, et vit bientôt son visage se rembrunir. Il tourna plusieurs pages, revint au commencement, regarda la fin. Puis, fermant le livre, et rejetant la tête, il appela d'une voix sévère, « Père André !» Le chapelain continua de ronfler. « Père André !» répéta Sir Godefroy. Le bon père ne bougeait pas. Le châtelain se leva de son siège, et secoua si vivement son confesseur, que celui-ci faille tomber sur les dalles. Réveillez-vous, fainéant, dit le seigneur avec irritation. Il est bien temps pour le berger de dormir, lorsque le loup est déjà dans la bergerie, et que les brebis sont en danger. Et quoi? Qu'y a-t-il? Demanda le moine à demi-éveillé. Est-ce le moment de souper? Regardez donc, André, cria le châtelain avec fureur, ce qu'a fait cette misérable enfant. Quelle pénitence lui infliger pour une faute pareille! Et il tendit le livre au chapelain qui le prit, en disant, que votre grâce me pardonne, je rêvais que Madge m'avait préparé tout un pot de bouillie. Madge a préparé un mets savoureux, en vérité, fut la réponse irritée. Je ne vous comprends pas, seigneur, dit le père. Ce livre est un livre excellent. Vous n'êtes qu'un âne, mon père. Ne voyez-vous donc pas que c'est la traduction de l'évangile par John Wycliffe, le prêtre le lard dont parlait Lord Marnell? Ne vous souvenez-vous pas de ce qu'il a dit de ces gens? Et, que m'importe, Madge a été trop bien élevée pour que ce livre puisse lui nuire. Laissez-la tranquille et rendez-lui son livre. Marjorie était saisie de surprise. La vérité est que le bon père l'aimait fort. Il l'avait vu grandir sous ses yeux, et elle flattait innocemment la gourmandise du brave homme, en lui préparant des friandises. En outre, le chapelain était d'une ignorance extrême. Il ne pouvait lire couramment et devait épeler les mots deux ou trois fois de suite, avant d'en saisir le sens. Par une habitude vieille de 40 ans, il arrivait à lire son livre de messe, mais aurait pu célébrer les offices de mémoire, et si on avait placé devant lui un autre volume que celui auquel il était habitué, il aurait été fort embarrassé. Ainsi son affection pour Marjorie, son faible pour la bonne chère et son ignorance tout ensemble, le disposèrent à prendre les choses avec indulgence. Sir Godefroy prit le livre des mains du prêtre, et, le jetant à sa fille, « Voilà votre bien. Emportez-le. J'estime que c'est au père André à prendre soin de votre âme. Et d'ailleurs, vous allez bientôt vous en aller auprès de quelqu'un qui sera votre maître, et qui ne vous laissera pas lire les livres des Lollards. » Marjorie laissa tomber sa quenouille qui roula sur le sol. Une crainte horrible, indéfinissable, s'était emparée d'elle. « Mon père, que voulez-vous dire ? » balbutia-t-elle, tremblante. « Ce que je veux dire, rien d'autre que ceci, je vous ai promise comme épouse à Lord Marnell, seigneur de la chambre du roi, chevalier de la jarretière. Vous serez une grande dame, vous habiterez Londres, et tiendrez votre rang parmi les pairs. Que dites-vous de cela, ma fille ? » La pauvre enfant resta un instant immobile, comme anéantie, plus pâle qu'une morte. Puis elle poussa un cri déchirant, « Oh, mon père !» Sir Godefroy n'avait recherché que les honneurs, pour sa fille, et n'avait pas songé un instant qu'il allait la rendre malheureuse. Il eut l'air troublé, « N'êtes-vous pas contente, ma fille ?» Marjorie alors s'agenouilla auprès de lui, et inclina la tête sur ses mains jointes. « Oh, père, père !» répéta-t-elle d'une voix brisée. « En vérité, ma fille, j'ai grande peine à vous voir ainsi. Mais vous en prendrez votre parti, et serez fière de devenir une si puissante dame. » Un tremblement nerveux, de profonds sanglots secouaient la jeune fille, toujours prosternée, mais elle ne versait pas une larme. À la fin, elle murmura, « N'y a-t-il pas moyen d'éviter cela ? Je ne l'aime pas. Je ne peux pas l'aimer. En vérité, ma fille, je ne vois pas comment nous pourrions l'éviter. Je ne pensais pas que vous seriez si affligée. Lord Marnell est un noble seigneur, et il vous vêtira de drap doré de soierie. Lui avez-vous donné votre parole, mon père ? Oui, ma fille, je la lui ai donnée. » Marjorie se releva brusquement et se dirigea vers l'escalier qui conduisait à sa chambre. Richard Pinson se leva aussi, et, ramassant le livre qui avait glissé par terre, le lui tendit. Elle le prit et serra la main de Richard sans le regarder, puis courut s'enfermer dans sa chambre. Elle se jeta par terre sur les roseaux qui recouvraient les dalles, trop bouleversée pour pleurer, trop accablée pour penser, et connut là toute l'agonie du désespoir. Soudain, il lui sembla entendre les paroles mêmes du Seigneur, « Que votre cœur ne soit pas troublé. » Jean 14, 1. Et vous donc, vous avez maintenant de la tristesse. Mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et personne ne vous ôte votre joie. En vérité, je vous dis que toute chose que vous demanderez au Père en mon nom, il vous les donnera. Jean 16, 22-23. Marjorie n'avait personne qui lui interprétât les Écritures. Elle les acceptait dans leur sens littéral avec foi et simplicité, et ne songeait pas à les modifier selon sa propre volonté. Combien ce serait heureux pour nous tous si nous recevions ces paroles bénies avec l'humilité, et la soumission de cette pauvre enfant ignorante. Mais plus Marjorie considérait la question sous toutes ses faces, plus elle se sentait embarrassée, ne sachant que demander. En lisant l'Évangile, elle avait été frappée de voir que Jésus s'en remettait toujours à la volonté du Père. Et elle craignait, en suppliant Dieu de lui épargner cette épreuve, de ne pas agir suivant sa volonté. Mais toute son âme criait à lui, le suppliant de lui aider à accepter sa volonté, de lui donner la joie de sa présence et de son amour, quel que fût le chemin qu'il choisit pour elle, et de lui conserver son livre, même s'il jugeait bon de la dépouiller de toute chose. Une heure plus tard, Dame Lovell, qui ne pouvait dormir, en songeant à la peine de sa fille, entra doucement dans sa chambre pour la consoler. Elle fut surprise de trouver Marjorie, dormant paisiblement, son livre pressé sur son cœur, comme si elle voulait défendre contre tous cette parole de Dieu, qui avait donné le repos à son âme.